Bonjour à tous et à chacun. Le texte biblique que je vais vous lire pour commencer la méditation prévue ce matin est un texte extrêmement court puisqu'il s'agit d'un seul verset que nous trouvons dans le psaume 10 et au verset 4. Dans son arrogance, l'impie déclare « Dieu n'existe pas ». Il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. Il y a 15 jours, Pierre nous a conduits dans une belle méditation sur le psaume 8, qui commence et se termine ainsi « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Au cœur de cette célébration de la grandeur et de la gloire de Dieu, une question fondamentale, qu'est-ce que l'homme ? Sur la base du poème de David, des choses essentielles ont été relevées à propos de cette interrogation. Qu'est-ce que l'homme ? Des éléments récents m'ont conduit à vous proposer pour ce matin un deuxième volet de réflexion sur ce sujet. Premier élément, la pensée. Un hebdomadaire bien connu titrait dans son numéro d'il y a 15 jours « Les penseurs les plus influents du monde. Et si les nouveaux Platon et Aristote étaient dans la Silicon Valley ?» Et de citer parmi ces penseurs Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, Ray Kurzweil, directeur de la prospective chez Google, et pape du transhumanisme et d'autres. Comparer Mark Zuckerberg à Platon et Aristote, point d'exclamation multiple. Le même hebdomadaire, dans son dernier numéro, rapporte des extraits du récent ouvrage d'un jeune essayiste israélien, Yuval Noah Harari, ouvrage qui a pour titre Homo Deus, autrement dit l'homme-dieu. Le premier ouvrage de cet auteur, qui s'appelait Sapiens, a été vendu à 5 millions d'exemplaires dans le monde, dont 250 000 en France. Je ne sais pas combien d'exemplaires de ce Homo Deus vont pouvoir être vendus, probablement beaucoup. J'aimerais donc, dans un premier temps, revenir un peu sur le transhumanisme et essayer de voir comment on passe du transhumanisme à l'homme-dieu. Dans l'ouvrage Homo Deus, l'auteur raconte, je pense qu'il vaut mieux dire prophétise, comment l'humanité va être radicalement transformée dans les prochaines années. Il se situe donc dans la ligne du transhumanisme en version plus radicale que celle de Ray Kurzweil. Rappelons l'essentiel. Pour Kurzweil, la science augmente l'homme, mais elle l'augmente notamment par l'intelligence artificielle, à un point tel que nous allons entrer dans une ère d'une carrément nouvelle humanité. La technique seule, dit-il, est capable de remédier au malheur des hommes. Affranchis de toute préoccupation éthique, ces promesses veulent permettre de croire à de nouveaux lendemains qui chantent. Deux points. Les OGM régleront le problème de la faim dans le monde. Un remodelage neurologique permettra de guérir les hommes de la violence qui les habite. La vidéosurveillance fera disparaître la délinquance urbaine. La banalisation de l'utérus artificiel parachèvera la libération des femmes. Le clonage rendra superflu les astreintes de la procréation sexuée, etc. Telles sont quelques-unes des soi-disant améliorations de l'espèce humaine. Faisons un pas de plus avec le deuxième auteur que j'ai cité, Harari. Pour cet auteur de l'Homo Deus, les religions sont complètement dépassées et Dieu est mort. Voici ce qu'il en dit. Plus d'un siècle après que Nietzsche eut proclamé sa mort, Dieu semble de retour. Mais c'est un mirage. Dieu est mort. C'est juste qu'il faut du temps pour se débarrasser du corps. Les religions qui perdent le contact avec les réalités technologiques de leur temps se privent de la capacité de comprendre les questions qui se posent. Qu'adviendra-t-il du marché du travail dès lors que l'intelligence artificielle surpassera les êtres humains dans la plupart des tâches cognitives? Quel sera l'impact politique d'une nouvelle classe nombreuse de gens économiquement inutiles? Que deviendra la société humaine quand la biotechnologie nous permettra d'avoir des bébés sur mesure et de creuser des écarts sans précédent entre riches et pauvres? On ne trouve de réponse à aucune de ces questions dans le Coran ou la charia, pas plus que dans la Bible ou les Analectes de Confucius. Voilà quelques extraits de cet auteur. Une nouvelle religion est prônée dans cet ouvrage. Le dataïsme. Peut-être que certains ont déjà perçu quelque chose de ce qui est ici annoncé. Dataïsme. Data. Quoi, data? Data, c'est des données. Dataïsme, c'est la religion des données. Alors, quelques explications complémentaires quand même. Comme le capitalisme, le dataïsme est né sous la forme d'une théorie scientifique neutre, mais il se transforme actuellement en une religion qui prétend déterminer le bien et le mal. La valeur suprême de cette nouvelle religion est le flux d'informations. Les hommes ne sont que des outils visant la création de l'Internet et de l'interconnexion de tous les objets qui, dans la planète Terre et plus loin, pourraient bien se prolonger à toute la galaxie, voire à tout l'univers. Ce système cosmique de traitement des données sera pareil à Dieu. Il sera partout et contrôlera tout, et les êtres humains sont destinés à se fondre en lui. Le dataïsme ne se limite pas à des prophéties. Comme toutes les religions, il a des commandements pratiques. Avant toute chose, un dataïste doit maximiser le flux de données en se connectant à toujours plus de médias, mais aussi en produisant et en consommant toujours plus d'informations. Je ne sais pas comment ils vont faire, hein, parce que au stade où on en est déjà, avec tous ces gens qui oublient de vous regarder quand vous les croisez dans la rue parce qu'ils sont complètement accros à leur smartphone. Donc encore plus d'informations. Tout comme d'autres religions qui ont réussi, le dataïsme est aussi missionnaire. Son deuxième commandement est de tout rattacher au système. À l'inverse, le péché le plus grave serait de bloquer le flux de données. Qu'est-ce que la mort, sinon un état où l'information ne circule plus? Vous n'aviez pas pensé à cette définition, hein? La mort, un état où l'information ne circule plus. La guerre contre la mort sera le projet phare de notre siècle. Bien sûr, nous ne deviendrons pas immortels, mais amortels. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? On peut envisager qu'on se rende tous les 10 ans dans une clinique pour bénéficier du dernier traitement technologique et gagner une nouvelle décennie de bonne santé. Bon, ça va, pour le moment, je m'arrête là. Voilà donc la nouvelle utopie, manifestement au moins aussi folle que les précédentes, qui voudrait combler le terrible décalage existant entre les extraordinaires réalisations techniques dont l'homme s'est montré capable et l'infirmité meurtrière de son cheminement éthique, moral, relationnel et politique. De la négation de Dieu à la folie. C'est pour ça que j'ai pensé à ce verset qui est répété d'ailleurs dans les psaumes au moins une deuxième fois. Dans son arrogance, l'impie déclare « Dieu n'existe pas, il ne va pas chercher plus loin ». C'est là le fond de sa pensée. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, déclare aussi que les incrédules se sont fourvoyés dans leur vision folle, dans leur pensée, leur raisonnement insensé et leur cœur sans intelligence est devenu la proie des ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Qu'est-ce que l'homme ? Il y a 15 jours, Pierre nous a cité une des définitions les plus connues, celle de Pascal dans les Pensées. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. J'ajoute, parce que Pascal a écrit pas mal de choses sur cette définition de l'homme, en voilà une autre, du même Pascal, dans les Pensées. Quelle chimère est-ce donc que l'homme ? Quelle nouveauté ? Quel monstre ? Quel chaos ? Quel sujet de contradiction ? Quel prodige ? Juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers, qui démêlera cet embrouillement. Encore une petite définition de Lamartine. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Je voudrais maintenant mettre face à face deux réponses à la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Deux réponses à la question. La première, c'est en résumé ce que je viens de décrire dans le transhumanisme. C'est beaucoup moins poétique que ce que nous venons de lire chez Lamartine. La définition de l'homme par les transhumanistes s'énonce ainsi. Une concrétion éphémère et manipulable à loisir de gènes et de cellules partout présentes dans la réalité organique. Les sentiments et les pensées qui nous habitent, peur, dépression, affection, joie, tout cela résulte d'une combinaison changeante de substances comme la sérotonine ou l'ovocytine. Ce que nous appelions jusque-là la conscience, l'esprit ou l'âme ne sont rien de plus qu'une émergence aléatoire et mouvante produite par un réseau de connexions neuronales. L'homme ainsi défini n'a pas beaucoup de valeur en lui-même. Vous rappelez les sommes des composantes de l'être humain qui peuvent servir à un certain nombre de choses. Au total, ça ne fait quand même pas une grande valeur. Mais l'homme ainsi défini peut rapporter beaucoup d'argent, même si lui-même n'a pas une grande valeur. La conséquence logique de cette définition, c'est la mort de l'humain par la marchandisation de la vie. Et ici, je voudrais citer un autre auteur qui, lui, prend le contre-pied, heureusement, de ce que nous avons décrit jusqu'ici. Il s'agit du philosophe Éric Sadin qui met en garde contre ce qu'il appelle, encore un mot barbare, hein, la silicolonisation du monde. La silicolonisation du monde. La colonisation du monde par la Silicon Valley, par tous les utopistes de cette Silicon Valley dont nous apprenons que beaucoup des grandes villes du monde voudraient avoir leur Silicon Valley. Il s'agit, dit-il, cet auteur, du modèle économique et même civilisationnel le plus prédateur que nous ayons jamais connu. Il est question d'identifier l'humain uniquement et continuellement comme une cible marchande. Cela est rendu réalisable par l'extension massive de capteurs sur toutes les surfaces possibles, du corps aux objets domestiques, conduisant à un traçage intégral de la vie. Aujourd'hui, c'est la vie qui est collectée. J'ai pas dit connectée, j'ai dit collectée. La vie est collectée. Que ce soit le sommeil de chacun de nous, notre poids, notre dimension, et bien des éléments de ce que nous sommes, tout est collecté pour faire l'objet d'une monétarisation continue. Nous entrons dans l'ère de la relation client ininterrompue. Cette organisation de la vie à base d'algorithmes disqualifie la personne humaine. Je pense que, même si ici ou là le langage est un peu abscon, un peu obscur, vous avez quand même repéré l'essentiel de ce propos. Je suppose que tous ceux qui pratiquent plus ou moins quotidiennement les informaticiens, Internet et tout ce qui nous est accédé par les ordinateurs et par les smartphones, tout cela sont submergés, je ne parle même pas du téléphone, de propositions commerciales sans fin. En ce qui me concerne, il y en a 10 à 15 par jour que je vire au commencement, dès que j'ouvre l'iPad ou l'ordinateur. 10 à 15 au moins par jour, et on vous propose de tout, dans tous les domaines, y compris avec des procédures complètement malhonnêtes, puisque on vous dit « Nous vous remercions, vous avez commandé tel objet, on se prépare à vous l'envoyer. » Vous n'avez rien commandé du tout. Je pense que vous en avez tous de ces affaires-là. On est dans cette marchandisation généralisée. On est dans le big data, c'est-à-dire dans l'énormité de ce flux de données absolument incroyable. Pour vous donner juste encore un exemple, c'était en 2013, donc ça fait 4 ans déjà. On a calculé que chaque jour, dans le monde, il y a plus d'un milliard d'impressions publicitaires. Chaque jour dans le monde, plus d'un milliard d'impressions publicitaires. Vivant dans ce monde-là, piégé, comme nous le sommes, en partie par ce système, nous voulons essayer de revenir un peu à la raison que Dieu nous donne en nous éclairant par sa parole. Je vais essayer une autre définition de l'homme, et puis je lirai de façon un peu plus développée un texte biblique que nous connaissons tous. Qu'est-ce que l'homme ? C'est cette créature unique que Dieu a faite à son image. Cette admirable sculpture de glaise, soudain animée par un souffle de vie. Ce duo, homme et femme, être de parole, un dialogue d'admiration, d'amour et de sagesse. Ce couple regardant le monde, nommant les êtres et les choses et cultivant leur jardin. Ce mammifère bipède, capable de se reproduire, de penser le monde et de se penser lui-même. Cet être génial, capable d'inventer et de construire des machines, de peindre des tableaux, de raconter son histoire, de chanter ses joies, ses rêves et ses souffrances, de s'organiser socialement, d'apprendre, de grandir, de se dépasser. Cet être, enfin, misérable, aimé de Dieu, capable de choisir le mal et de le faire, de penser des folies et de les réaliser, de devenir plus inhumain que les animaux, de le reconnaître, de s'en repentir et saisissant la grâce de renaître. Voici l'homme. Et maintenant, je lis avec vous le dernier chapitre de la deuxième lettre de Pierre. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à la conversion, au changement de vie. Mais le jour du Seigneur viendra comme vient un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les éléments embrasés par le feu se désagrégeront et tout ce qui a été fait sur la terre se trouvera consumé. puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger. Quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en attend sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les éléments embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre bien-aimé frère, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi des autres textes de l'Écriture, pour leur propre ruine. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans règles et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous sommes invités à progresser dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le véritable homme, celui qui donne profondeur et sens à toute l'humanité, à toute la vie de chacun de nous. Et nous allons commémorer la venue de Dieu sur la terre en son Fils Jésus-Christ. Et j'aimerais vous proposer, avant et après la Sainte Cène, deux chants qui, dans le fond, disent exactement la même chose. Et je lis le premier, « Dans ton amour, divin Sauveur, Dieu est venu parmi nous. Dans ton amour, divin Sauveur, toi, les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vins t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois pour moi se donne sur la croix. En vain, mon cœur de ton amour voudrait sonder le grand mystère, savoir pourquoi tu fus un jour frappé pour moi sur le calvaire. Sublime amour, don merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Le Créateur, l'être immortel, l'auteur, la source de la vie, le Fils de Dieu, le roi du ciel, ô grâce ineffable, infinie, voulant sauver l'homme pécheur, souffre à sa place et pour lui meurt. Mais ô bonheur, tu as vaincu, la mort a dû lâcher sa proie, et ta victoire est mon salut, oui, mon bonheur, ma paix, ma joie. Aussi, je veux tout à nouveau bénir ton nom, ô Saint-Agneau. Levons-nous pour chanter ce cantique.